Macro, micro, l'émission qui fait le lien entre l'économie mondiale et votre épargne. Avec Jérôme Dédéian, président de monpartenairepatrimoine.com.
Jérôme Dédéian, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui dans Macro Micro, on va parler d'une thématique d'investissement qui vous est chère, celle de la décarbonation de l'économie. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est assez clair, c'est un mouvement qui a été initié lors de la décennie précédente, avec notamment les accords de la COP21 à Paris, que tout le monde connaît. Et c'est un mouvement qui devrait s'amplifier sur cette nouvelle décennie, du fait de l'urgence climatique, avec le retour des États-Unis de Joe Biden dans les accords, et avec les trajectoires de mise en œuvre des engagements de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré de plus au maximum que la situation d'avant l'ère industrielle. Et il est clair que les grandes puissances économiques affichent les unes après les autres des ambitions vertes de plus en plus ambitieuses. Et ça se voit dans leurs différents plans de relance. C'est vrai pour le plan américain, le plan européen ou le plan chinois, qui mettent la transition énergétique au cœur de leur programme d'investissement, avec une volonté importante d'accélérer sur le sujet, parce qu'ils pensent que ça leur donnera un leadership mondial. C'est aussi, ils ne le font pas seulement par souci environnemental, ils le font aussi parce qu'ils pensent que ça leur donnera un leadership et que ça aura des retombées sur leur compétitivité. Pour une fois, on a une Europe qui n'est pas complètement à la ramasse. Elle semble même en avance, puisqu'elle a une prévision d'atteindre la neutralité carbone de ses activités en 2050. C'est dire si cette thématique de la transition écologique et énergétique et de la décarbonation est une thématique d'investissement porteuse de long terme pour l'épargnant. Donc nous, on pense qu'il faut investir sur cette thématique, surtout sur l'investissement en actions, où le temps long est nécessaire pour accompagner les entreprises dans cette transformation. Et puis, c'est vrai que les autorités mondiales sont très volontaristes sur le sujet. Et donc, on pense qu'il y a un risque de dévalorisation des entreprises qui ne suivront pas le mouvement parce qu'elles subiront une pression réglementaire de plus en plus forte et que ça risque de les pénaliser.
D'accord, Jérôme, mais il n'y a pas que les émissions de CO2. Est-ce que c'est pas un peu réducteur comme approche ?
Alors, vous avez raison, Fabrice. En fait, même si c'est une composante essentielle du E, environnement de l'approche ESG, environnement social gouvernance, dans les enjeux climatiques au sens large, il y a aussi des enjeux de qualité de l'air, de qualité de l'eau, de respect de la biodiversité. À titre d'exemple, rien que la pollution de l'air, on estime qu'elle tue chaque année 12,5 millions de personnes, c'est-à-dire plus que les morts cumulées qu'on a vécues depuis le début de la crise sanitaire. Et puis par ailleurs, l'approche doit être fine et elle ne peut pas être manichéenne, car les entreprises qui émettent traditionnellement peu de CO2, comme les entreprises de services ou de services financiers, ne sont pas forcément celles qui vont régler le problème et trouver des solutions pour décarboner l'économie. À l'inverse, il y a des entreprises qui polluent beaucoup, comme des sociétés pétrolières, qui peuvent être indispensables à la vie de l'humanité, et on ne va pas les supprimer du jour au lendemain, on en a besoin. On peut aussi citer des entreprises dont la fabrication des produits émet beaucoup de CO2, par exemple un constructeur de rames de train. Voilà. Pour mettre le train sur le marché, on a consommé et produit beaucoup de CO2, mais en revanche, une fois que le train roule, il a un rapport de pollution aux passagers par kilomètre transporté qui est extrêmement favorable, par rapport à un transport en avion ou en voiture, par exemple. Et donc, il faut bien analyser le cycle de production de carbone d'une entreprise dans tout son écosystème et pendant la durée de vie de ses produits.
Ouais, on constate donc que la thématique d'investissement dans cette économie décarbonée, elle nécessite une ingénierie fine et beaucoup de travail.
Et oui, et d'autant plus que je vais vous rajouter deux couches de complexité à ce discernement que j'évoquais. Tout d'abord, il est très difficile aujourd'hui d'avoir des mesures fiables, cohérentes et comparables de l'empreinte carbone des entreprises, faute d'un référentiel de normes totalement standardisé et d'outils de mesure productifs. Et puis, vous savez qu'il y a un marché du carbone. Les entreprises et les États peuvent compenser leurs émissions en achetant des crédits carbone sous forme de financement, de projets de stockage long terme du carbone hors de l'atmosphère. Elles peuvent aussi vendre des crédits qu'elles ont en trop si elles font mieux que les objectifs que la réglementation leur impose. Ça, c'est pour le marché du carbone régulé, obligatoire. Et puis, il y a un marché du carbone alternatif, volontaire. Et en fait, entre ces deux marchés, il y a des mécanismes de formation des prix de la tonne de CO2 qui ne sont pas forcément le même et que ça crée évidemment une difficulté d'analyse pour savoir où mettre son épargne.
Le marché progresse évidemment très vite là aussi.
Alors oui, et évidemment, nous on pense que ça va se normaliser et qu'on va progresser à pas de géant. Par exemple, il y a des sociétés comme Carbometrix qui sont en train de mettre l'intelligence artificielle au service d'une mesure harmonisée de l'empreinte carbone des différents acteurs économiques. Et puis il y a une vraie recherche adaptée qui se met en place dans les sociétés d'analyse externe et chez les gérants de portefeuille pour une prise en compte croissante de ces facteurs dans la sélection de valeurs avec de plus en plus de professionnalisme.
On peut donc investir dès à présent dans cette décarbonation de l'économie, mais quand on est épargnant, on s'y prend comment concrètement ?
Eh ben, J'ai eu l'occasion de dire qu'on avait une industrie de la gestion d'actifs en France. On avait la chance d'avoir une des industries les plus performantes de la gestion d'actifs mondiale. Et effectivement, l'innovation dans la gestion, et notamment chez les acteurs français, a donné lieu au développement d'offres qui répondent parfaitement à la thématique d'investissement dans la décarbonation de l'économie. Parmi celles qu'on aime, on peut citer un fonds de Sycomore Asset Management, le fonds Sycomore Éco-Solutions, qui se concentre sur les acteurs dont les business models contribuent à la transition écologique et énergétique dans tous les domaines prioritaires qu'ils ont identifiés, mobilité, énergie, rénovation et construction, économie circulaire et toutes les activités qui ont des impacts sur les écosystèmes biologiques. Il exclut clairement les entreprises dont tout ou partie de l'activité est destructrice de capital naturel. Donc il y a vraiment des choix de conviction. Et c'est tout à fait un produit qui répond à cette thématique pour un épargnant. On peut citer deux fonds de la Financière de l'Échiquier, qui est une maison qu'on ne présente plus, qui a été précurseur dans la prise en compte des critères extra-financiers dans son processus de gestion. Ils portent bien leur nom, Échiquier Climate Impact Europe et Échiquier Positive Impact Europe. Ces fonds rentrent parfaitement dans la thématique, dans un processus d'investissement socialement responsable complet, mais avec un biais extra-financier en faveur des entreprises qui apportent des solutions concrètes aux enjeux de décarbonation, quel que soit leur secteur d'activité. Et puis, je peux vous citer un troisième produit qui est un produit très ancien et qui s'appelle aujourd'hui, puisqu'il a changé de nom, Carmignac Portfolio Green Gold. Ce fonds est historiquement un fonds consacré aux matières premières. Et ils viennent de totalement refondre sa stratégie d'investissement pour l'adapter à cette macro-tendance de la décarbonation de l'économie en concentrant leurs investissements sur des sociétés qui offrent des produits, services ou solutions à faible intensité carbone, comme des fournisseurs d'énergie renouvelable partout dans le monde, des sociétés qui permettent à d'autres activités de réduire leurs émissions carbone ou d'améliorer leur mix énergétique, leur efficacité, par exemple certains producteurs de nickel, qui est un composant essentiel pour la production de véhicules électriques, et puis, troisième type de société qu'ils recherchent, des sociétés qui contribuent le plus à la transition énergétique et à la réduction globale des émissions carbone. Par exemple, certaines grandes sociétés intégrées minières ou pétrolières qui amorcent une transition massive de leur modèle. C'est typiquement des produits, dans tous les cas, qui sont des solutions existantes, concrètes pour les épargnants et que la qualité, la qualité de leur process de gestion et leur reporting sont déjà remarquables. Et avec la disponibilité des analyses, de la recherche qui croît, ça va encore s'améliorer.
Voilà, on en sait un petit peu plus sur cette thématique de la décarbonation de l'économie et surtout sur quoi investir si on est épargnant et si on s'intéresse à ce sujet. Un grand merci Jérôme Dédéan, je rappelle que vous êtes le fondateur de monpartenairepatrimoine.com et à très bientôt pour une nouvelle émission.
Macro Micro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.